Mathias.
Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu en personne.
Et j'ai du mal à te croire parce que tu étais toujours présent dans mes pensées et toujours présent derrière mon écran.
C'est
peut-être vrai.
Ouais, c'était derrière l'écran. Mathias et moi, nous connaissons depuis plus d'une vingtaine d'années. Wow. Quand même. Mathias terminait sa thèse quand j'ai commencé ma thèse. Et après, il est parti à Londres, je me souviens, pour travailler sur les processus motivationnels. Et après, il a évolué un peu plus vers les processus des décisions pour devenir le grand chercheur qu'il est aujourd'hui dans l'étude de la motivation et des processus de décision chez l'être humain. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, Mathias, puisque tu es un expert, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans... Pourquoi tu es venu ici pour présenter ton livre ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette décision ?
Où est-ce que je suis venu à Bordeaux ?
Voilà, c'est ça.
Parce que Thomas me l'a demandé. Et je peux rien refuser à Thomas.
Mais il devait y avoir différentes valeurs, des pour, du contre, le temps imparti, la famille, le travail.
Ouais, effectivement. Mais c'est bien que tu poses cette question parce que ça me permet de dire très clairement et dès le départ que. En fait, on est rarement conscient des raisons pour lesquelles on prend une décision ou une autre. On a parfois cette activité, on l'a tous, hein, de délibération. On va essayer de pondérer les différents facteurs. Alors effectivement, il y a le voyage à Bordeaux, il y a les gens à Bordeaux. Est-ce qu'ils vont être sympas avec moi ou pas ? Il y a la famille à Paris qu'il faut quitter. Il y a des tas de facteurs comme ça. Quelquefois, on fait ça très explicitement. Il y a des gens qui font des colonnes avec des plus et des moins et qui essayent de faire un bilan comme ça. La plupart du temps, on fait ça sans s'en rendre compte. On a une intuition, on se dit oui, tiens, j'ai envie ou j'ai pas envie, ou je sens bien, je sens pas bien. Et puis, pouf, on se retrouve à Bordeaux à parler devant des tas de gens intéressés. Merci d'être là. Devant un vieux copain qui s'appelle Michel Thiébaud. Mais le sens de ma réponse, c'est qu'en fait, on a rarement accès aux raisons qui président à la décision. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Et en fait, on a l'impression d'avoir un libre arbitre, on a l'impression de pouvoir prendre une décision en fonction de sa volonté consciente. Et comme tu sais, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'expériences qui ont montré qu'on peut dissocier ces choses-là. On peut prendre des décisions, en tout cas, on peut déclencher des décisions chez les personnes sans que ces personnes, alors que ces personnes vont avoir l'impression de prendre une décision consciente, on peut les déclencher de l'extérieur. Et puis, on peut avoir l'inverse, on peut avoir des gens qui prennent des décisions alors qu'elles ont l'impression que ces décisions sont imposées à elles. Alors, je prends deux exemples. Ça ne t'embête pas si je parle tout le temps.
Vas-y, non, c'est parfait.
Ok, je prends deux exemples. Pour le premier cas, donc on va faire une double dissociation. Pour le premier cas, c'est l'exemple des split brains. Tu connais ça, les cerveaux divisés. Donc, ce sont des gens qui souffrent d'épilepsie, qui ont des crises d'épilepsie massives, et qu'on va opérer en sectionnant le corps calleux. Le corps calleux, c'est cet ensemble de fibres qui rejoignent les deux hémisphères, qui permettent aux deux hémisphères de communiquer. Et on fait ça pour empêcher les crises de se propager d'un hémisphère à l'autre. Et on a fait des expériences chez ces personnes où on projetait des images soit à leur cerveau droit, soit à leur cerveau gauche. Vous savez que les voies visuelles sont croisées. Donc si je montre une image assez brièvement à mon œil gauche, il va être principalement représenté dans mon cerveau droit et réciproquement. Et il faut savoir aussi que c'est le cerveau gauche qui parle, parce que le siège du langage, chez la plupart des personnes, c'est pas vrai chez tous, comme tu sais, mais chez la plupart des personnes, le langage est à gauche. Et donc, chez ces pauvres patients au cerveau divisé, les patients split brain, on peut projeter des images au cerveau droit, celui qui parle pas, mais le patient, quand il vous parle, lui, il va utiliser son cerveau gauche, simplement comme le corps calleux est sectionné, les deux cerveaux ne communiquent plus. Et donc, on s'est imaginé, des neurochirurgiens dans les années 50 et 60, comme Sperry et Gazzaniga, se sont, pas amusés, mais ingéniés à tromper ces patients en projetant, par exemple, des images qui seraient dégoûtante ou repoussante à leur cerveau droit. Et à ce moment-là, ce qu'ils observent, il y a un comportement. Donc le patient se lève, il va vers la porte. Et à ce moment-là, le Gazzaniga Ospiri lui demande « Mais monsieur, pourquoi partez-vous ?» Et là, évidemment, le patient n'a pas accès à l'image qu'il a repoussée et qui a provoqué son départ. C'est le cerveau gauche qui parle. Il ne sait pas ce qu'a vu le cerveau droit. Et il dit, il invente une histoire, en fait. Il dit « J'avais soif, je voulais prendre un verre d'eau » ou bien « J'avais envie d'aller aux toilettes » ou il donne une raison. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on fait. Et là, c'est un cas extrême. En fait, le cerveau divisé, c'est un cerveau évidemment qui n'est pas intact, qui n'est pas fonctionnel. Mais en fait, on fait très souvent ça. On prend des décisions pour certaines raisons. Et puis, quand on nous demande tout à trac, comme toi ce soir, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision ? Eh bien, on invente quelque chose. Voilà. On dit c'est la faute à Thomas. Et donc ça, c'est la première dissociation. Donc vous avez des patients qui n'ont pas accès aux raisons qui président à leurs décisions. Et on le sait parce que ces raisons, on leur a donné de l'extérieur, on les a manipulées. Et on a l'inverse, alors je vais faire plus court, on a l'inverse dans des pathologies comme les troubles psychotiques. Vous savez que les schizophrènes ont ce genre de délire où quelqu'un prend le contrôle de leurs pensées ou de leurs actes. Et en fait, l'interprétation courante, c'est qu'ils génèrent eux-mêmes la voix qui leur parle dans leur tête, mais ils ont l'impression qu'elle vient de l'extérieur, et ils ont l'impression de ne pas pouvoir désobéir à cette voix. Donc ils se retrouvent à obéir à une voix qui, en fait, provient de parties inconscientes de leur fonctionnement psychique, mais qui s'attribue à une force extérieure. Voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours au clair avec les raisons qui président à nos choix.
Ok. Donc, j'ai lu ton livre en entier.
Tu bluffes.
Tu peux me poser une question si tu veux.
M'attends pas.
Un peu plus tard. En deux semaines. Mais j'étais particulièrement touché parce qu'en fait, le livre présente une forme de dualité entre Momo, qui raconte sa vie de tous les jours, qui subit un petit peu sa vie de tous les jours, de façon simple. Et le scientifique qui derrière explique les mécanismes sous-jacents de la décision et qui sont assez complexes en fait, qui amènent Momo à faire ce qu'il fait. Ça m'a particulièrement touché parce qu'en réalité, le scientifique, Mathias Pessiglione, je le connais assez peu, mais Momo, je le connais plutôt bien. Et par exemple, je me souviens de soirées où on jouait aux cartes ensemble. On joue au poker, comme l'un de tes exemples dans ton livre.
Qu'est-ce qu'il va raconter ?
Et dans l'un de tes exemples dans ton livre, tu dis très élégamment que quand tu joues au poker, au bout d'un moment, tu finis par comprendre la logique de comment jouer de façon systématique pour maximiser tes gains et minimiser tes pertes. Mais c'est là que tu commences à t'ennuyer. Et pour continuer à jouer et à t'amuser, tu commences à faire des all-in un petit peu de temps en temps et tu perds tout. Et en réalité, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Où tu fais des all-in un petit peu à Las Vegas et tu as tout perdu. Mais la question qui...
Tu bluffes à nouveau, j'en souviens
non,
pas.
Non, si. Ouais. Mais la question qui m'intéresse en particulier, c'est comment est-ce que le scientifique se réconcilie avec Momo, en fait, comment le grand professeur parle. Tout de suite, quand tu pars faire tes courses dans la journée et que tu dois acheter un tel type de riz au lieu de tel type de riz, et tu te rends compte qu'en fait, la boîte, elle a l'air plus grosse, mais en fait, le prix est moins cher, mais la quantité est plus faible, et c'est probablement pas la même qualité. Et derrière, est-ce que quelque part, il y a le professeur qui se réveille et qui dit « Attention, on est en train d'essayer de te manipuler pour que tu prennes une décision que tu ne veux pas prendre ». Tu as cet exemple avec la télévision, par exemple, qui était.
Ouais, non, c'est une bonne question. La première réponse, c'est que effectivement, il y a deux personnes dans une, et que je suis un Momo comme tout le monde, hein, et donc je me trompe, je prends des mauvaises décisions. Après, je m'en veux, et puis j'essaie de comprendre pourquoi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris ce sujet d'étude. C'est parce que je ne savais pas prendre des bonnes décisions. Et donc, je me suis dit, on va essayer d'étudier le pourquoi du comment. Et puis, peut-être qu'à la fin, j'arriverai mieux. Je ne suis pas sûr que j'arrive mieux. Donc, je n'ai pas de recette pour prendre une bonne décision. Sinon, je serais très riche, je pense. Je pourrais vendre des conseils très chers. Par contre, ce qu'on voit au fur et à mesure de mes manies, mais pas que les miennes, hein, il y a des études dans la littérature scientifique, c'est plutôt les biais, c'est-à-dire qu'on repère des choix qui seraient irrationnels par rapport à une décision optimale. Alors ça pose le problème difficile d'arriver à définir la rationalité, mais il y a beaucoup de gens, des penseurs, soit des philosophes, soit des économistes, qui ont défini des normes rationnelles, qui disent pour être rationnel, il faut faire comme ci, comme ça. Et pour vous donner un aperçu de ces normes, en fait, ça dépend des situations. Vous avez des situations très simples, où on va, par exemple, avoir des décisions entre des options financières. Je dis simple parce que c'est quantifié. Par exemple, vous avez ce que les anglo-saxons appellent une loterie. Sous le terme anglais, ça veut dire l'association d'un montant et d'une probabilité. Par exemple, 50% de chance de gagner 100 euros. Et bien, en fait, quand on a ce genre d'option, il y a une façon rationnelle d'estimer la valeur attendue. 50% de chance d'obtenir 100 euros. L'espérance mathématique, on le sait depuis Blaise Pascal, 1750, je crois, les pensées. L'espérance, ça va être 50 euros. On multiplie la probabilité par le montant, et puis ça nous donne une espérance. Et Pascal nous dit, prendre une décision rationnelle, c'est choisir l'option qui a la plus grande valeur attendue. Donc pour chaque option, je regarde quelles sont les conséquences possibles. Pour chaque conséquence, j'estime la probabilité et le montant. Je fais ma multiplication, je somme sur toutes les conséquences, et puis comme ça, j'ai la valeur attendue de chaque option, et puis, rationnellement, je prends l'option de meilleure valeur attendue. Et c'est comme ça, au passage, que Pascal justifie la croyance en Dieu, parce qu'il dit, même si la probabilité que le Dieu chrétien existe est très faible, même si elle est minuscule, la perspective d'un avenir au paradis a une valeur infinie, c'est un plaisir infini. Et donc, si je multiplie une petite probabilité par un plaisir infini, ben, ça fait une valeur infinie. Donc, je dois me comporter en bon chrétien pour le cas où ça m'envoie au paradis. Et entre parenthèses, c'est pas que Pascal, vous avez le même genre de raisonnement. Alors, évidemment, dans le système capitaliste, c'est très fréquent, mais j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est un petit peu à contre-courant. Lénine, à la veille de la révolution bolchevique, fait exactement le même raisonnement. Il dit la probabilité que la révolution réussisse est très faible, mais on va quand même tenter le coup, parce que si ça marche, alors ce sera le grand soir, la victoire des classes prolétariennes, le paradis sur Terre, etc. Donc ça vaut le coup, parce que si on multiplie la probabilité par la grandeur, on arrive à l'infini. Alors ça, c'est une situation simple. On a la probabilité et on a le montant. Dans la plupart des cas, on n'a pas ces choses-là. Même sur des choix très simples, fromage ou dessert, orange ou banane, il n'y a pas de probabilité, il n'y a pas de montant, on ne peut pas faire de calcul. Et donc, on ne sait pas trop comment faire. Mais il y a quand même des normes de rationalité qui ont été démontrées essentiellement par le mathématicien allemand von Neumann, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est celui qui, après avoir participé au projet Manhattan et à la fabrication de la bombe atomique, pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, a ensuite fondé la théorie des jeux, puis les bases de l'ordinateur. Donc c'est un des scientifiques du XXe siècle qui a eu le plus d'influence. Et donc, sur la rationalité, ce qu'il a dit, c'est que irrationnel, un choix qui maximise la valeur, au sens où on prend la valeur qui est la plus grande sur une échelle de valeur. Donc, faire un choix rationnel, ça revient à être capable de poser les options sur une même échelle de valeur. Et si je peux faire ça, alors je vais respecter un certain nombre d'axiomes de rationalité. Je ne vous les donne pas tous, il y en a quatre. Mais un axiome, c'est par exemple la transitivité, c'est-à-dire que... si je préfère A à B, et je ne sais pas, si je préfère Bordeaux à Marseille et Marseille à Paris, allez, alors je dois préférer Bordeaux à Paris parce que je suis transitif. Et ça vient directement du fait que je suis capable de poser mes options sur une échelle. Si je suis capable de mettre A, B et C, ben après, quand je compare les options, A est supérieur à B, B est supérieur à C et A est supérieur à C, je suis transitif. Donc on peut poser comme ça des normes de rationalité. Et ensuite, donc ça, c'est ce que font les économistes. Donc, ils disent comment on doit se comporter en toute rationalité. Ça, c'est l'agent économique, l'homo pas l'Homo sapiens, mais l'Homo economicus des théories. Et puis vous avez des psychologues qui ont fait des expériences et qui ont montré que, évidemment, les vrais humains dans la vraie vie ne se comportent pas du tout comme l'agent rationnel en économie. Et qu'on, et donc après ce long détour, je reviens au biais, et donc qu'on répertorie un certain nombre de biais dans la décision. Et donc je reviens à la dissociation entre, j'ai pas perdu le fil, entre moi et moi, entre le narrateur et Homo sapiens. Peut-être il y a quand même, c'est pas complètement étanche, parce qu'il y a une certaine porosité. Ce qui passe, à mon avis, c'est la connaissance des biais. C'est-à-dire que je sais que, je ne sais pas, si je suis fatigué, je vais être plus impulsif, par exemple. Et donc, je peux repérer mon état et pas prendre une décision si je suis dans un état de fatigue. Donc, vous avez des tas de biais comme ça, qu'une fois qu'on les connaît, on arrive à les repérer dans la vraie vie, chez soi, chez les autres, d'ailleurs. On peut le faire remarquer à sa femme, à ses enfants.
Ils doivent adorer ça.
C'est ça. Et non, mais ça permet de mettre des mots. Et alors, c'est pas parce qu'on a repéré le biais que c'est facile de contrer le biais. Si on a une impulsion, c'est difficile de la contrer. Mais par contre, ça peut quand même être intégré dans la réflexion, dans la délibération. Et donc, peut-être que ça permet d'éviter certaines bêtises. Je pense que c'est par là qu'il y aura peut-être une influence de mon activité scientifique sur mon activité de tous les jours.
Ok.
Mais je sais pas pourquoi j'ai tout misé ce soir-là.
Ouais, peut-être tu t'ennuyais. Dans une partie de ton livre, tu parles beaucoup de du priming. Donc, c'est présenter des images très rapidement à la télévision et la façon avec laquelle ça peut peut-être influencer le public pour voter pour une personne ou pour une autre personne. Chose que tu démontres bien dans ton livre. Les effets sont vraiment minimes et on peut pas vraiment dire que ce soit une bonne stratégie pour se faire élire. En revanche, il y a ce scandale. Tu es peut-être au courant de Cambridge Analytica qui a manipulé des données pour pouvoir essayer d'influencer et qui a essayé dans plusieurs pays différents d'influencer le vote et les processus de décision des individus avec pas des images subliminales mais des images qui suggéraient des concepts. Tu penses que donc c'est possible de toujours avec l'information, avec la télévision, avec les médias d'influencer les décisions des personnes?
Je pense que c'est possible, mais quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Mais peut-être pas par le subliminal. En fait, ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est assez différent d'une manipulation subliminale. Donc pour tout le monde, en fait, vous savez peut-être l'histoire, c'est parti d'un cinéma de la côte ouest des États-Unis en 1957, je crois. Le propriétaire s'appelait Monsieur Vickery. Il projetait un film qui s'appelait Picnic. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré une image dans le film, une image par seconde, donc une 25e image. Normalement, il y a 24 images par seconde. Il a mis une 25e image. Il a essayé deux choses. Une, c'était drink coke, donc buvez du coca. Et l'autre, eat popcorn, manger du popcorn. Et les ventes de popcorn et de Coca-Cola ont été décuplées pendant le film ou à la sortie du film, je ne sais plus. Et donc, c'est à partir de là qu'est partie la peur ou la paranoïa sur la publicité subliminale et le fait qu'elle a été interdite, en fait, dans la plupart des pays et dans tous les États, je crois, aux États-Unis. Et tout était faux. Donc, le propriétaire du cinéma, en fait, a inventé les chiffres. Donc, il n'y a pas de chiffres avérés sur l'effet subliminal. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il ait fait la manipulation. C'est-à-dire qu'il a raconté qu'il avait mis une image supplémentaire. On n'est même pas sûr qu'il l'ait fait en vérité. Mais ça a tenu très longtemps, parce qu'il l'a avoué 10 ans après, parce qu'il y a eu des procès. Et ça avait suffi, en fait, pour que cette idée de la publicité subliminale se propage. Parce que c'était combiné à des idées un peu freudiennes, selon laquelle, si on s'adresse directement à l'inconscient, alors on ne veut pas se défendre, et du coup, ça va manipuler directement notre comportement, etc. Et à ma connaissance, il n'y a toujours pas de preuve d'un effet de manipulation subliminale dans la vraie vie à grande échelle, donc dans les campagnes électorales ou dans des campagnes commerciales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu beaucoup. En France, vous vous rappelez peut-être, pour les vieux comme moi, je crois que c'était dans la campagne de Mitterrand en 1981, ils avaient rajouté une image juste après le générique d'Antenne 2, à l'époque, il y avait une image de Mitterrand pendant la campagne. Donc, c'est pas rien quand même, c'est la campagne présidentielle française, c'est la télé d'État, Antenne 2, et ils mettent une image subliminale. Mais rien ne dit que ça ait eu un effet sur le résultat des élections présidentielles en 80, on ne sait pas. Vous avez un autre exemple, c'est aux États-Unis, c'est le Parti démocrate, non, c'est le Parti républicain, pardon, qui, sur une image où il était écrit le mot démocrate, Democrats, ils avaient mis en exergue, mis en gras la partie rats de Democrats, essayer de suggérer que tous les démocrates étaient des rats. C'est aussi une manipulation subliminale parce que l'image ne se voyait pas. Mais là encore, on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de réelle mesure de l'impact de l'effet. Donc moi, comme je suis sceptique et que j'attends d'avoir des preuves pour conclure, je dis pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ça marche à grande échelle. À ma connaissance, il vaut mieux avoir une affiche en 4x3 sur le bord de la route, bien visible. Ça a plus d'effet qu'une image subliminale à la télé. Et pourquoi je dis ça? Parce que une image subliminale, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une image, même si vous savez qu'elle est là, qu'elle vous est présentée, et même si vous faites très attention, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'apercevoir consciemment. Et ce n'est pas du tout la même chose qu'une manipulation qu'on pourrait dire implicite, que vous avez avec les nudges, par exemple. Les nudges, c'est des manipulations implicites. Quand vous avez une ligne bleue qui passe par l'escalier à la sortie du métro et pas par l'escalator pour vous inciter à prendre les marches et à faire du sport, c'est un nudge. C'est implicite, c'est-à-dire personne ne vous dit si on a mis une ligne bleue, c'est pour vous faire faire du sport. Mais ce n'est pas subliminal non plus, parce que la ligne bleue, on la voit. Et si je vous explique, vous comprenez la manipulation. Donc il n'y a rien d'inconscient, en fait, ça ne s'adresse pas à l'inconscient. Et à ma connaissance, ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est essentiellement recueillir des données. Donc il y a eu un scandale avec Facebook, parce que Facebook avait transmis à cette boîte des données personnelles des gens, alors qu'évidemment, ils n'ont pas le droit. La boîte en question a prétendu avoir reconstitué des profils psychologiques des personnes, et donc d'inférer quelles étaient les préférences politiques, pour qui elles avaient voté, etc., et envoyer des messages personnalisés sur les recherches Internet à ces personnes qui étaient soi-disant adaptées à leur profil et qui pouvaient les influer. Et donc, ils sont intervenus dans la campagne américaine, je crois, Trump-Clinton, en 2016, dans la campagne pour le Brexit, j'ai perdu la date. Mais enfin, ils sont intervenus plusieurs fois, puis il y a eu un certain nombre de procès, parce que... Donc, c'est évident qu'ils ont enfreint la loi, c'est évident qu'ils ont essayé de manipuler les gens, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le subliminal, parce qu'il n'y a pas d'inconscient. Ce qui est commun avec le subliminal, c'est que je ne sais pas si ça a eu un impact, parce qu'en fait, il n'y a pas d'étude d'impact. Donc, si ça se trouve, ils se sont fait payer très cher par plein de gens pour faire ces manipulations, mais en fait, on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas.
Il n'y a pas de tâche contrôle, on ne peut pas comparer avec...
Il n'y a pas de monde parallèle où on pourrait observer ce qui se serait passé si Cambridge Analytica n'était pas intervenu.
Exactement. OK. Il y a un autre chapitre qui m'a interpellé aussi dans ton livre, quand tu parles de la contamination des humeurs sur l'humeur des individus. Si tu veux quelque chose, les gens vont vouloir cette chose également, ou si les gens sont contents, ou il y a une musique positive dans le supermarché, tu vas avoir tendance à être plutôt de bonne humeur. Mais ça m'a beaucoup interpellé, parce qu'on voit aussi l'inverse. C'est une échelle de valeur et comment on apprécie les choses. On voit aussi l'inverse chez les personnes qui ont eu une vie difficile, ont tendance à apprécier davantage les petites choses que les gens qui ont une vie plus facile, qui vont pas le voir vraiment forcément en contraste. Donc finalement, est-ce que tu dirais que ils ont une musique de background qui est une musique dans le fond qui est triste, mais quand même ça permet de surélever les choses qui sont positives. Est-ce que t'as pensé à ça?
Ouais, non, c'est une bonne question. C'est une question qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, les deux phénomènes existent. Donc, il y a un effet de contamination, c'est une chose. Il y a un effet de contraste, c'est autre chose. Et tu as raison, ça a l'air d'aller dans les sens opposés. Donc, juste pour que tout le monde soit avec nous, l'effet de contamination, c'est effectivement... en fait, c'est sur un temps assez court. Les deux phénomènes ne sont pas aux mêmes échelles. Donc, l'effet de contamination, c'est un temps assez court. Et vous avez contamination d'un élément du contexte sur un autre. Donc l'exemple que tu as pris est bien. Je suis au restaurant, il y a une certaine musique de fond, j'ai un ami en face de moi et j'ai un plat dans mon assiette. Et en fait, toutes ces choses-là font l'objet d'une évaluation qui est plus ou moins automatique par le cerveau. Donc j'apprécie ou pas la musique, j'apprécie ou pas la conversation avec mon ami, et j'apprécie ou pas ce que j'ai dans mon assiette. Et en fait, ça transpire ou ça bave, c'est-à-dire que le caractère plaisant ou déplaisant de la musique va influer sur la façon dont je perçois la conversation, ou sur la façon dont je perçois la qualité du repas. Et ça, c'est connu depuis la nuit des temps. C'est pour ça que les négociateurs vous offrent un bon cigare ou un bon vin quand ils veulent vous faire apprécier une offre, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des effets de contamination entre ces choses-là. Et donc, ce que je raconte dans le bouquin, c'est le versant cérébral de ça. Donc, on a commencé à démêler un petit peu les mécanismes. Et effectivement, dans la zone du cerveau qui s'occupe d'attribuer des valeurs aux choses, donc le caractère plaisant ou déplaisant, vous avez une zone en particulier qu'on appelle le cortex orbitofrontal, parce qu'il est au-dessus des orbites, donc derrière le front, au milieu des yeux, ici. Dont l'activité a une certaine persistance. Donc il peut être dans un état haut, dans un état d'activité élevé, qui correspond en fait à un état plus ou moins de bonne humeur, ou bien dans un état bas, qui est un état de mauvaise humeur. Et l'état du cortex orbitofrontal n'est pas neutre, en fait, quand je dois évaluer une situation, une option, etc. Donc effectivement, si je suis dans un état haut, par exemple parce que j'aime bien la musique, je vais avoir tendance à évaluer plus positivement les autres éléments du contexte, par exemple le repas ou la personne. Et réciproquement pour l'état bas. Donc ça, c'est l'effet de contamination. Et l'effet de contraste, pour moi, intervient à une autre échelle, et pas entre des dimensions différentes, mais à l'intérieur d'une même dimension. Donc, c'est quoi l'exemple ? Par exemple, si je suis au cinéma et que quelqu'un mange du pop-corn à côté de moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'agace. Et donc ça m'empêche d'apprécier le film. Le fait que le pop-corn m'agace et du coup j'apprécie pas vraiment la situation. Ça c'est un effet de contamination. Maintenant si je vais au cinéma et que 10 fois de suite je veux un mauvais film et que le 11e c'est un film moyen, je vais avoir tendance à trouver qu'il est mieux que ce que j'aurais trouvé si j'avais pas eu les 10 mauvais films avant. Et ça c'est un effet de contraste. Mais l'effet de contraste il est sur une échelle où on va répéter des éléments d'une même dimension, d'une même catégorie, la catégorie film, par exemple, alors que la contamination, ça va être entre différentes dimensions d'un même contexte.
Ok. Donc, après avoir lu tout ton livre, je me sens vraiment expert dans les processus de décision.
Je ne sais pas comment tu fais, papa.
C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. En particulier, ce que j'aimais beaucoup, une chose que j'ai apprise dans ton livre, que je n'ai jamais été trop intéressé par la formuler les comportements des gens avec des équations mathématiques, était très encourageant dans le livre. J'ai vraiment apprécié. Je vais commencer, je vais vous montrer quelques équations, vous pouvez passer le chapitre complètement.
Ou bien, fait, bien sûr.
C'est ce que j'allais dire. J'ai passé le chapitre et voilà, c'est la fin de la question. Non. Ou bien, vous pouvez essayer de faire l'effort de comprendre et je vais vous accompagner dans chaque étape et vous allez voir qu'à la fin, en fait, c'est vraiment intéressant et effectivement, t'expliques très bien. Et on comprend bien chacune des éléments dans la formule. Mais ça m'a amené à avoir d'autres questions en fait sur ces équations. En particulier, si tu commences à poser des équations sur les décisions des gens, il y a une forme de déterminisme, puisque dans ces cas-là, tu peux prédire. Imagine si tu pouvais mesurer tous les neurones à l'intérieur du cerveau et leurs connexions. Peut-être tu pourrais prédire ce que les gens vont décider. Ou bien, est-ce qu'il reste une part inexplicable de libre arbitre?
Oula. Sur les équations, effectivement, en fait, le but principal, c'est de pouvoir faire des simulations, des modèles. C'est-à-dire que je suppose que le cerveau, que l'humain ou l'esprit se comporte comme ça. Et je ne me contente pas de faire des phrases, j'ai écrit en maths. Mais les maths n'ont aucun intérêt, en fait. C'est le niveau conceptuel qui est intéressant. Donc je suppose qu'on prend les décisions de cette façon-là, c'est mon modèle. Et ensuite, je simule le modèle. Donc, j'ai un agent informatique qui va prendre des décisions et je regarde comment il se comporte. Et en fait, on est souvent surpris parce qu'on n'arrive pas à faire des simulations dans notre tête. On a un cerveau très limité pour ça, mais les ordinateurs sont très bons. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des propriétés émergentes. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, on parlait de l'humeur tout à l'heure. Pour un économiste, l'impact de l'humeur sur les choix, c'est quelque chose d'irrationnel. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Donc, pour prendre un exemple, on sait que, par exemple, on vend plus de billets de loto quand il fait beau, ou à Bordeaux, si l'équipe de Bordeaux a gagné la veille, par exemple. Ça s'interprète comme un effet de l'humeur. Les gens sont contents. Ils sont optimistes et ils vont acheter des billets de loto ou bien ils vont faire des paris. Donc ça, pour un économiste, évidemment, c'est aberrant puisque les résultats sportifs ou bien la météo est complètement indépendant des résultats du loto et donc ça ne devrait pas m'influencer. Et en fait, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce que c'est vrai que cet effet de l'humeur sur les choix est complètement aberrant? Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles ce serait au contraire adapté? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison pour laquelle la sélection naturelle, en fait, a favorisé ce mécanisme qui fait que, quand on est de bonne humeur, on a tendance à explorer, on a tendance à sortir, on va chercher les bonnes choses, ce qu'on appelle les récompenses. On va affronter des coups, on va prendre des risques peut-être, on va faire des efforts pour avoir des récompenses quand on est de bonne humeur et puis pas quand on est de mauvaise humeur. Et que ça, c'est finalement pas adapté. Et c'est là que j'arrive avec ma simulation informatique. On peut simuler un environnement très simple qui peut être celui ou qui s'approche peut-être de celui qu'ont rencontré nos ancêtres au cours de l'évolution, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et on se dit que dans l'environnement de ses ancêtres, il y a des fluctuations qui sont saisonnières et qui vont varier la disponibilité des récompenses, mais aussi des coûts en fonction de l'année. Donc schématiquement, l'été, il y a plus de pluie, il y a plus de proies, c'est plus facile. L'hiver, il fait froid, il fait noir, c'est plus dur d'aller chasser ou d'aller cueillir. Et en plus, les proies hivernent et... les arbres ont perdu leurs fruits. Et donc, dans cet environnement-là, on se rend compte que c'est finalement adapté d'être de bonne humeur l'été et d'être de mauvaise humeur l'hiver, puisque du coup, je vais aller cueillir et chasser quand ça vaut le coup, quand ça rapporte, et puis au contraire, je vais rester dans ma grotte. Bon, après, ils ne vivent pas dans les grottes, mais enfin, je vais rester dans mon abri. Quand ça vaut pas le coup. Et quand on fait les simulations, on s'aperçoit qu'effectivement, l'agent qui est équipé de ce système-là, c'est-à-dire qu'il va explorer l'environnement quand il est de bonne humeur, finalement se débrouille mieux à la fin de l'année. Il a obtenu plus de récompenses et il a subi moins de coûts que l'agent qui est neutre, comme le voudrait la théorie économique. Et ça, c'est pas si facile en fait à prouver de tête. Et c'est en mettant en mathématiques et en simulant le modèle qu'on arrive à observer cette propriété qui est une propriété émergente du système. Alors, comment est-ce que je vais arriver au libre arbitre à partir de là? Donc, effectivement, quand on a ces équations, ces lois qui prédisent les comportements, on s'aperçoit que quand on a un bon modèle, ça prédit les choix en moyenne. Donc, je ne sais pas, un bon modèle, il va prédire les choix des gens à 70 ou 80%. C'est quand même au-dessus de la chance. Par exemple, si c'est un choix binaire, on a une chance sur deux. Si c'est un choix entre deux options, il y a une chance sur deux. Mais c'est très loin, évidemment, de la prédiction parfaite qui serait à 100%. Et si on devait prédire un seul choix d'une seule personne à un moment donné, on se tromperait dans 20 ou 30% des cas. Donc on fait vraiment des prédictions statistiques en fait sur un grand nombre de choix. Donc ça marche en moyenne, ça marche pas au coup par coup. Alors pourquoi ça marche pas? Là j'aurais l'attitude de la place en fait. C'est ce que tu as évoqué un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement. Ça marche pas à cause du hasard épistémique, c'est-à-dire qu'il y a trop de facteurs que je ne connais pas et que je ne peux pas intégrer dans mon modèle ou dans mon équation. Et c'est l'ensemble de ces facteurs inconnus qui fait qu'en fait, j'arrive pas à prédire correctement le comportement des gens. Et c'est aussi ce qui fait l'écart, une des limites de notre discipline, c'est ce qui fait l'écart entre les prédictions de laboratoire, c'est-à-dire que dans un test de laboratoire bien contrôlé, où je maîtrise à peu près les facteurs, on prédit bien les comportements. Quand il s'agit de prédire ce que font les gens dans la vraie vie, ça devient beaucoup plus difficile. Et même Cambridge Analytica, qui fait du machine learning sur les données de Facebook, a quand même du mal à faire des prédictions correctes. Donc je dirais ça, en fait. C'est un défaut de connaissance qui fait que je n'arrive pas à prédire les décisions des gens. Maintenant, sur la question du libre-arbitre, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que méthodologiquement, la science, que ce soit d'ailleurs les neurosciences cognitives, comme on fait, ou la physique, on essaye de trouver les lois qui vont présider au comportement d'un système. Donc ça peut être un système de gaz, si je suis un physicien, ça peut être un cerveau, si je suis un neuroscientifique. Et par nature, l'attitude scientifique consiste à essayer de trouver des lois qui déterminent le système. Et donc le concept de libre-arbitre, il ne veut pas rentrer en fait dans une théorie scientifique, parce que si c'est le cas que je peux prendre une décision qui soit complètement indépendante de tous les facteurs imaginables, et c'est ce que ça veut dire en fait le libre-arbitre, bah alors je ne peux pas prédire le système et ça ne peut pas rentrer dans ma théorie. Donc la question de libre-arbitre pour moi est une question hors champ scientifique, c'est une question philosophique, c'est une évidence à la première personne, c'est-à-dire que moi comme tout le monde, j'ai l'impression d'exercer ma volonté quand je prends une décision. On sait que dans bien des cas, c'est faux, comme on le disait au début. On peut avoir l'impression de prendre une décision volontairement, et en fait, c'est pas le cas. Mais de toute façon, une théorie scientifique va faire l'impasse sur le libre arbitre par construction.
Ok. Merci pour cette réponse. J'ai une dernière question, parce qu'on va arriver au bout, qui me brûle les lèvres. Professeur Pessilian, est-ce que la dopamine est la molécule du bonheur?
Ah, tu tiens à m'énerver. Donc Michel fait exprès de me mettre en rage. Je t'avais raconté cette anecdote.
C'est écrit dans ton livre.
Ah, c'est écrit dans le livre.
Ouais. Tu me l'as raconté aussi.
Ouais, j'ai raconté aussi. En fait, les chercheurs ou les scientifiques dans la salle le savent bien. Quand on a affaire aux journalistes, ils essayent de vous faire dire des phrases, des formules un petit peu clinquantes. Et une de ces formules, c'est la dopamine. C'est même pas la molécule d'ailleurs, c'est l'hormone.
L'hormone, pardon.
C'est l'hormone du bonheur ou l'hormone du plaisir.
L'hormone du plaisir. Ouais,
j'aime bien dire l'hormone du plaisir. Et donc j'ai vécu cette expérience quand j'étais beaucoup plus jeune. On essayait de me faire dire que la dopamine était l'hormone du plaisir, et alors c'est faux, parce que d'abord c'est pas une hormone. Une hormone, c'est une molécule qui va dans le sang et qui permet de transmettre un signal d'un organe à l'autre. La dopamine, en fait, elle a un tout petit rôle comme neurohormone, mais pour simplifier, la dopamine, c'est un neuromodulateur qui transmet de l'information à l'intérieur du cerveau, donc c'est pas une hormone. Et rien ne dit que ce soit lié au plaisir. On pense même plutôt le contraire, c'est-à-dire que si je rencontre une situation qui me fait plaisir, ça va avoir plusieurs effets. Il y a l'impression, le vécu subjectif, conscient de plaisir, c'est une chose. Mais il va y avoir aussi un effet de renforcement. Donc, si par mon action, mon comportement, j'arrive à quelque chose qui me fait plaisir, je vais avoir tendance à répéter ce genre d'action parce que je suis trop content et donc je vais recommencer. Et c'est plutôt cet effet de renforcement, à cet effet de renforcement que sert la dopamine plus qu'à la génération de la sensation de plaisir. Et on pense que la sensation de plaisir elle-même, c'est au moins la théorie de Berridge sur le wanting et liking, la sensation de plaisir serait plus liée au système opioïde. Donc le fait que j'aime, que j'apprécie la situation, c'est plutôt les opioïdes. Et le fait que je suis renforcé et donc que ça va influencer mon comportement dans le futur, c'est plutôt la dopamine. Voilà. Okay. Dans la série, j'ai aussi La dopamine, c'est comme un feu de forêt. J'ai une journaliste qui voulait absolument me faire dire que c'était comme un feu de forêt dans le cerveau, et qui voulait même me faire faire une expérience dans laquelle on montrerait, en mettant quelqu'un dans l'IRM, que le cerveau s'embrasait comme un feu de forêt. Ça lui plaisait beaucoup, en fait, cette image. Et j'ai dû lui expliquer que, d'abord, ça ne marchait pas comme ça. On ne met pas quelqu'un dans l'IRM, et puis on voit l'activité du cerveau. Il y a un traitement statistique. Et puis qu'en fait, l'image du feu de forêt ne veut pas dire grand-chose. Enfin,
bref, voilà. Super. Bah écoute, Mathias, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir de replonger dans ta vie personnelle et dans ta vie scientifique en lisant ton livre. Et puis, je souhaite d'avoir énormément de succès avec ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci.
Merci, Michel.